Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour la visite radiophonique du mois de mai avec Bénédicte Bougnol du Pays d'Art et d'Histoire Mandelot en Gévaudan. Salut Béné.
Salut.
Et un nouveau venu, Xavier Mirman, professeur d'histoire-géographie au lycée Émile Pétavin, également au service éducatif au Pays d'Art et d'Histoire Mandelot en Gévaudan. Bonjour Xavier.
Bonjour à tous.
Alors Béné, on va aller où aujourd'hui ?
Eh bien, cap à l'est, on va cheminer vers Chasserades. Et en fait, on a demandé à Xavier de nous accompagner aujourd'hui parce qu'à l'occasion des Journées européennes du patrimoine 2024, il a fait des recherches sur le village. En fait, le thème de ces Journées du patrimoine, c'était le patrimoine des itinéraires, des réseaux et des connexions. Et Xavier avait proposé une conférence avec Bruno Jodon. Peut-être que tu peux donner le thème de la conférence, Xavier.
Rester, passer, partir en Haute-Lozère, donc avec l'exemple de Chasserades.
Même si le site est quand même en ruine, il est extrêmement bien conservé parce qu'on a tous les éléments qu'on va retrouver systématiquement dans les châteaux à cette époque-là.
Visite radiophonique.
La chapelle, le logis et chaque bâtiment est positionné, non pas forcément sur une volonté de composition architecturale, mais vraiment en fonction de la place qu'on avait.
Visite
radiophonique.
Caroline Entraigue.
Nelly Lafont.
Une émission proposée par 48FM avec le Pays d'Art et d'Histoire Mandelot en Gévaudan et le Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement de la Lozère.
Ça y est, un peu de route, quelques escaliers aussi. On est arrivé où, Béné ?
Alors, on a pris de la hauteur. Nous sommes au sommet du clocher de l'église de Chasserades. On domine le village.
Oui, une très belle vue d'en haut, un très beau paysage. Xavier, qu'est-ce que tu peux nous dire, toi, sur Chasserades ?
Alors, la commune historique de Chasserades a été créée à la Révolution comme toutes les communes. Elle s'étale sur presque 62 km². Elle compte aujourd'hui à peu près 150 habitants. Elle est composée de 9 hameaux, l'Estampe, Mirandole, Grossefage, Dauphage, Praclot, Chabalier, Chabaléré, Le Mas et La Rochette-Héral, et évidemment donc Chasserades. Cette commune appartient aujourd'hui à la commune nouvelle de Mont-Lozère et Goulet.
Et je peux ajouter que plusieurs cours d'eau naissent à Chasserades. Tu as par exemple l'Allier qui prend sa source ici sur le Mour de la Gardille. Le Chassezac aussi prend sa source sur le Mour de la Gardille, mais sur la commune, elle, de Saint-Frézal-d'Albuge. Et c'est drôle d'ailleurs, tu le sais peut-être déjà, Ludo, mais la source du Chassezac se situe tout proche de celle de l'Allier, mais elle alimente le versant atlantique, alors que le Chassezac alimente le versant méditerranéen. Et en fait, le village de Chasserades est implanté ici, sur la ligne de partage des eaux. Et en fait, comme on peut le voir aujourd'hui, il fait face à la montagne du Goulet, et il surplombe aussi la vallée du Chassezac. Alors si on regarde bien le Chassezac, ici la rivière elle prend déjà la forme d'un petit canyon. Plus loin vers la gare de Guérin, elle se transforme carrément en gorge profonde et pour ensuite quitter le département de la Lozère et se jeter dans l'Ardèche.
Chassezac, Chasserades, il y a un lien ?
Alors on connaît mal les origines de Chasserades, mais effectivement on peut penser que le nom de Chasserades dérive de Chassezac. On peut aussi penser que ça désigne un territoire depuis très longtemps. On peut supposer qu'au 9e ou au 10e siècle, Chasserades était le siège ou le chef-lieu administratif d'une vicairie carolingienne du Chassezac. En fait, la rivière donne son nom à la vicairie et forme l'axe du territoire. Plus tard, au 13e siècle, va se développer ici un prieuré. Alors les prieurs, tu le sais, détiennent un pouvoir seigneurial et ils administrent ce territoire hérité de la vicairie carolingienne.
Et l'église existait déjà à l'époque du prieuré ?
Alors l'église, elle est mentionnée dans les textes pour la première fois en 1227. Alors si tu veux, on redescend puis on va la visiter.
Allez.
Alors voilà, on est redescendu, on est au cœur de l'église et je peux te dire un mot sur son histoire en fait parce qu'elle a une histoire importante parce qu'elle a été de très nombreuses fois remaniée. Elle va subir des ajouts qui vont modifier sa silhouette romane Mais malgré tout, cette église, elle demeure très intéressante et elle présente des similitudes avec d'autres églises que tu connais, Ludo, avec les églises de la gare de Guérin, les églises de Prévenchères et de Puylaurens. Alors si on observe bien, on peut repérer ces aménagements successifs dans l'architecture. L'édifice primitif était composé d'une nef de trois travées et d'une abside de chœur voûtée en cul-de-four. Et si tu regardes bien aussi, dans la partie sud-est de l'église, qui est la partie la plus ancienne, tu pourrais remarquer un jeu élégant d'arcatures, de colonnes et de chapiteaux sculptés. Juste ici, à l'entrée du chœur, on peut voir un beau chapiteau avec une représentation du péché originel. On devine, si on regarde bien dans la sculpture, on devine le serpent, le fruit défendu, Adam et Ève. Alors il y a d'autres chapiteaux sculptés qui présentent des décors, notamment des décors historiés, des décors figuratifs, des décors géométriques et végétaux.
Au-dessus de nous, il y a un trou, il servait à quoi ?
C'est ce qu'on appelle un oculus. Le clocher originel devait être ménagé ici, au-dessus de la dernière travée précédant l'abside de chœur. Alors le clocher sera déplacé par la suite. Alors, et comme je te le disais tout à l'heure, l'église va connaître plusieurs campagnes de travaux successifs, et notamment au XVIe siècle. Au XVIe siècle, c'est toute la partie nord-ouest de l'édifice qui va être réaménagée, et donc toute cette partie-là est beaucoup plus récente. En 1530, on va ajouter une chapelle au nord de l'abside de chœur. La chapelle sera nommée la chapelle Saint-Claude, et elle est fondée par le prêtre Louis Podens. Ensuite, on va allonger la nef de deux travées vers l'ouest, et c'est pour cette raison que l'abside est épaulée par deux contreforts à l'extérieur au sud-est. Ensuite, on va également ajouter un bas-côté au nord. Et enfin, on va déplacer le clocher dans la tour.
Alors, c'est vrai, maintenant que tu le dis, on voit bien les ajouts successifs.
Oui, et c'est pas fini. Ensuite, au XIXe et au XXe siècle, on poursuit les travaux pour assainir l'église et régler les problèmes d'humidité. On va notamment déplacer l'entrée de l'édifice à l'est et on va réaménager la place.
Mais on va surtout déplacer donc le cimetière. En effet, on a retrouvé dans les archives municipales et aux archives départementales de très nombreux échanges entre la mairie, les habitants d'une part, et puis l'administration, demandant donc le déplacement du cimetière. Alors, on trouve, en fait, dans ces archives, par exemple, en mai 1854, on sait que le cimetière qui entoure l'église est plus haut que le rez-de-chaussée de l'église, ce qui provoque des problèmes d'humidité et de salubrité. Les textes nous disent qu'il faut faire un fossé pour faciliter les écoulements d'eau, et la mairie vote une imposition additionnelle donc pour réaliser ces travaux. En 1878, on a une demande des habitants pour la translation du cimetière. Une décennie après, en 1888, le conseil municipal donc, de Chasserades vote la réparation et le maintien du cimetière dans son état actuel. Donc à l'inverse de la demande des habitants qui, l'année suivante, en 1889, écrivent au préfet en parlant d'émanation, d'infiltration putride, on met en cause la salubrité publique et supplie donc d'ordonner la translation du cimetière. Ils sont soutenus par le comité départemental d'hygiène qui, en 1891, déclare que le cimetière actuel est une cause d'insalubrité publique. Deux ans plus tard, en 1893, le déplacement du cimetière n'a pourtant toujours pas eu lieu et les habitants écrivent à nouveau au préfet, mais également au ministère de l'Intérieur pour le supplier. C'est le terme qu'on trouve dans les textes. Le supplier donc d'ordonner la translation du cimetière. Et pourtant, ça va prendre encore plusieurs décennies. Ça revient assez souvent donc dans les délibérations municipales et il faudra attendre en fait le milieu du XXe siècle pour que la translation du cimetière se fasse. On déplace donc le cimetière à peu près environ 200 mètres de l'église actuelle.
Allez, on va peut-être aller le voir.
Oui.
Voilà, on est sorti devant la place de l'église. Oui, j'aperçois le cimetière au loin dont on parlait tout à l'heure. Mais finalement, c'est plutôt le clocher que je trouve démesuré.
Et oui, c'est vrai, c'est une autre particularité de l'église de Chasserades. En fait, c'est son clocher-tour. Alors, on se pose plusieurs questions à son sujet. On n'a pas vraiment de réponse. On peut penser qu'avant d'être un clocher, cette construction appartenait certainement au prieuré. C'était peut-être même une habitation fortifiée avec une vocation de défense. En fait, à l'intérieur, à l'étage, on peut voir qu'il y a les vestiges d'un four à pain. Et on peut aussi penser qu'avec les aménagements et les agrandissements successifs entre le XVIe et le XVIIIe siècle, on peut penser que cette tour va être intégrée à l'architecture de l'église pour ensuite, par la suite, y installer le clocher.
Et cette tour est devenue donc le clocher de l'église de Chasserades. Elle a été épargnée à la Révolution. Lors de la Révolution, un arrêté impose que toutes les cloches soient descendues et les clochers soient démolis. Or, on apprend par un texte de 1859 que le clocher de l'église a été épargné sous la Terreur en 1793. Je cite « Le clocher est de nécessité indispensable de tout temps. Les cloches sauvent annuellement d'une mort certaine un grand nombre de personnes. » En fait, on peut penser que le clocher de l'église de Chasserades avait la même fonction que les clochers de Tourmente qu'on trouve ailleurs, donc sur le territoire du Pays d'Arc et d'Histoire.
Voilà, et qu'on a vu dans une émission. On part découvrir le village maintenant, Béné ?
Allez, on y va. Allez Ludo, je te propose de t'arrêter devant ce bel ensemble. On est devant deux bâtiments voûtés en pierre. L'un abrite un lavoir couvert et l'autre un abreuvoir.
C'est en 1933 que le village a été relié donc à l'eau potable. La duction s'est faite en 1933. Le captage, il est fait grâce à trois sources qui sont à peu près à 1500 mètres au nord donc, du village. On va aller maintenant voir le monument aux morts, si ça te va.
Allez, allons-y. Bon, Xavier, on est arrivé devant le monument aux morts.
Oui, Chasserades, comme toutes les communes à la fin de la Première Guerre mondiale, va se doter donc d'un monument aux morts pour rendre hommage donc à ces enfants qui sont morts pour la patrie pendant le premier conflit mondial. En septembre 1920, le conseil municipal donc de la commune vote une imposition extraordinaire de 40 centimes qui va permettre de ramasser une somme de 2000 francs pour financer donc le monument aux morts. Le projet du monument est adopté par la mairie en janvier 1922. On a choisi dans un catalogue le modèle du poilu au repos, comme on peut le voir. Ce modèle-là est assez commun en Lozère, puisqu'on le retrouve dans d'autres communes, comme par exemple au Lobby, à Serverette, à Rimeys, à Bar-des-Cévennes, à Bellevesée, etc. Alors, on peut en faire la description. Le poilu est placé donc sur un piédestal. La dédicace est gravée sur le piédestal et les noms des soldats morts donc lors de la guerre sur les deux autres côtés. L'ordre d'apparition des soldats est chronologique. On peut distinguer la croix de guerre sur le chapiteau. Il y a une croix latine sur la plaque de la dédicace, ce qui est d'ailleurs contraire à la loi. Et le monument est entouré par quatre boules en granit qui ont remplacé des obus.
Voilà, après le monument aux morts, on va revenir au centre du village. Lors de la dernière émission, Béné, quand tu avais annoncé celle-là, tu m'avais dit on va aller sur le chemin de Stevenson. Le chemin passe par ici ?
Et oui, le chemin passe à Chasserades. Alors si tu veux, on peut refaire un petit point sur l'histoire de ce livre, du succès du livre Voyage avec un âne dans les Cévennes, qui est paru en juin 1879. Et en fait, avec l'engouement grandissant pour ce livre et pour le voyage à pied, un itinéraire de randonnée a été mis en place dès 1978. Alors cet itinéraire s'est ensuite intégré au réseau des chemins de grande randonnée sous le nom du GR70. Et aujourd'hui, il est appelé le chemin de Stevenson. Et on sait qu'il y a à peu près 13 000 voyageurs qui marchent tous les ans sur ce chemin.
Oui, on passe justement devant le relais de Modestine.
Tout à fait. Alors voilà, Robert Louis Stevenson, qui va débuter son périple le 22 septembre 1878 au monastier sur Gazeille en Haute-Loire. En fait, il souhaite se ressourcer et il veut aussi découvrir le pays des Camisards. Alors pour cela, il va traverser la Lozère accompagné de son ânesse Modestine pour atteindre 12 jours plus tard Saint-Jean-du-Gard au terme d'un périple de presque 200 km. Et il arrive à Chasserades le 27 septembre 1878. Alors, est-ce que tu veux qu'on lise un petit passage de Stevenson qui décrit en fait le village de Chasserades ?
Allez, avec plaisir.
À la fin d'une heure, je vis le village perché sur un rocher au-dessus d'une boucle du Chassezac. J'arrivai au pont et je m'arrêtai pour contempler le paysage. Le village était entouré de montagnes et de forêts. Les maisons étaient faites de pierre et de bois. Au loin, je pouvais voir les sommets enneigés du mont Lozère. Je franchis le pont et je me dirigeai vers le village. Les habitants étaient curieux de voir cet Écossais accompagné d'une ânesse. Ils m'arrêtaient dans la rue pour me poser des questions. Je me sentais comme une célébrité. Je trouvai une auberge et je m'y installai. Je demandais à la patronne si elle connaissait un endroit où je pourrais laisser Modestine. Elle me dit qu'il y avait un pré près de la rivière. Je lui donnais la longe de Modestine et je la laissais paître. Je me promenais dans le village, je vis l'église, la mairie et la place du marché. Je rencontrais des habitants qui m'invitèrent à boire un verre de vin. Je passais une agréable soirée à Chasserades. Alors on sait que le jour suivant, un Robert Louis Stevenson va passer au Blémar, puis franchir le Mont Lozère pour arriver le 3 octobre 1878 à Saint-Jean-du-Gard.
Parler de Robert Louis Stevenson nous permet de parler des chemins vicinaux et de la capacité à se déplacer donc dans les communes de la Margeride, ici, au XIXe siècle. Donc, on sait que Chasserades a, je cite, une position malheureuse et connaît des préjudices considérables du fait donc de la proximité de la montagne, de son isolement, du climat, etc. Et quand on cherche un petit peu dans les délibérations municipales donc, au XIXe siècle, on a des litanies, mais c'est vraiment le mot, des litanies donc, de délibérations qui demande au préfet, à l'État, de venir en aide donc à la commune qui n'a absolument aucune ressource pour l'aider à consolider, à faire, à refaire, à construire donc des chemins vicinaux qui sont en très mauvais état et qui subissent donc les aléas climatiques, notamment ici les inondations. On sait qu'il y en a eu en 1872, en 1875, etc. etc. Et donc quand on lit les délibérations municipales, je peux en citer quelques-unes. En 1852, le 11 novembre 1852, la commune donc, relève un préjudice incalculable pour les contribuables du fait de leur éloignement, la difficulté de franchir pendant 6 mois de l'année la haute montagne du Goulet qui sépare les communes de Chasserades, Saint-Frézal et Bellevesée de celle du Blémar. On insiste aussi sur le fait de l'isolement puisque la commune de Chasserades a perdu le fait d'être chef-lieu de canton qu'elle était à la Révolution. Elle a perdu son bureau de poste, elle a perdu en 1849 son percepteur. Et donc, il y a une impression de se faire déposséder et d'éloignement des services publics, en fait. Donc, comme quoi, on se rend compte que c'est une problématique qui date pas d'aujourd'hui. Et donc, elle va en appeler au préfet en mettant en avant donc, son isolement et le mauvais état des chemins, la difficulté, l'impossibilité de rendre praticable, ce qui provoque des accidents. Ça, c'est une délibération de 1855. On demande au préfet un secours pour rendre les chemins praticables dans les endroits les plus difficiles. On vote des impositions extraordinaires. Un élément qu'on connaît peu aujourd'hui, mais qui était autorisé donc au 19e siècle, c'était une loi de 1836, les souscriptions en nature. Donc on pouvait demander aux chefs de famille 3 journées donc de souscription en nature pour aller travailler donc sur les chemins. Ils pouvaient amener aussi pour les plus aisés leur matériel, une charrette ou bien leurs animaux. Et donc, on a cette thématique qui vraiment court toutes les délibérations municipales ici à Chasserades, mais on peut élargir cette échelle-là. C'est la même chose qu'on retrouve dans toutes les petites communes qui ressemblent donc à Chasserades, ici en Margeride, à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Et alors, on connaît bien l'histoire des anciens chemins, notamment grâce aux monographies communales qui ont été faites à la demande donc, de l'inspection académique. L'inspecteur d'académie, au XIXe siècle, demande à chaque instituteur dans chaque commune de réaliser donc, des monographies communales. Il y en a eu au moins 2, 1862, 1874. Elles sont aujourd'hui très précieuses. Et j'encourage tout le monde à aller les lire puisqu'elles sont disponibles sur le site des archives départementales. Elles font souvent 3-4 pages. Et on a donc un aperçu, en fait, une photographie de la commune à un instant T. Et ces monographies communales nous permettent de connaître absolument tout sur chaque commune. Ici à Chasserades, on a la chance d'avoir un ancien instituteur qui en a fait une troisième et qui n'était pas forcément demandé, c'est assez rare. Il s'appelle Jean Barandon, il n'était pas instituteur au chef-lieu, donc ici à Chasserades, il était instituteur à Chabalier, donc qui est un petit village quelques kilomètres plus haut. Et il a réalisé une monographie communale qui mériterait d'être éditée. Elle fait à peu près une centaine de pages, c'est très bien écrit. Et vous avez donc une description de tout ce qui se passe à Chasserades. Et il met l'accent sur la difficulté, l'isolement, la topographie, etc. etc. Et on a, grâce donc à ces délibérations, à ces monographies communales, une approche extrêmement fine de ce que pouvait être donc la vie au village dans la deuxième moitié du 19e siècle.
Et on peut retrouver une monographie par commune lozérienne ?
Oui, dans chaque commune lozérienne a sa monographie, donc il y en a même plusieurs, souvent il y en a 2, parfois 3.
On peut les consulter sur le site des archives départementales de la Lozère, elles sont numérisées. Et c'est souvent assez intéressant.
Ouais. Alors, ils se plaignaient de l'isolement. Juste pour nos éditeurs, on peut rappeler comment on vient jusqu'à Chasseradès, où ça se situe ?
Alors, pour venir à Chasseradès depuis Mende, aujourd'hui, il faut prendre la Nationale 88 jusqu'au col de la Pierre à Planter et quelques centaines de mètres après, donc prendre sur la droite la direction, la départementale 6, direction La Bastide, et c'est 17 km après cet embranchement, donc on arrive à Chasseradès.
Transition extraordinaire, le mieux c'est de prendre le train.
Allez, du coup, on va reprendre la voiture et on va faire une étape avant de rentrer. Allez, ben on s'est arrêté quelques mètres plus loin. On est sous des arches. Alors, je me rappelle être au-dessus des arches lors d'une visite dans un train qui est bien connu en Lozère, le Translozérien.
Tout à fait. Et avant de te parler plus précisément du Translozérien, est-ce que tu savais que Stevenson avait été témoin du chantier, justement, de cette ligne de chemin de fer ?
Eh bien non.
Et voilà, en fait, le 27 septembre 1878, Stevenson va partager sa chambre dans l'auberge qui est située en plein centre du village avec des responsables des relevés en vue de la construction du chemin de fer et notamment du viaduc de Mirandol. Et donc, je t'ai déjà lu un extrait de Voyage avec un âne dans les Cévennes et là, je vais te lire celui qui est consacré à cette rencontre. Je trouvais ce soir-là dans la cuisine de l'auberge des hommes occupés à lever des plans pour un des chemins de fer en projet. Ils étaient intelligents et communicatifs et nous décidâmes de l'avenir de la France en buvant du vin chaud, jusqu'au moment où, surpris par l'heure tardive, nous allâmes nous coucher. Il y avait 4 lits dans la petite chambre du haut. Nous y dormîmes 6, mais j'eus un lit pour moi tout seul et je persuadai mes compagnons de laisser la fenêtre ouverte. Le lendemain, alors que la lumière commençait à poindre avant d'inonder le plateau, Stevenson entend les ouvriers l'appeler pour lui dire « Hé, bourgeois, il est 5 heures !» En fait, il lui demande de se lever. Eux, ils étaient en train de partir au chantier et il demandait à Stevenson de se lever pour qu'il puisse lui continuer son chemin.
Et le chantier était fini bien plus tard, j'imagine.
C'est ça, en fait, la ligne de chemin de fer, elle est inaugurée seulement 24 ans plus tard.
Et justement, cette inauguration, finalement, ça ne plaît pas à tout le monde, parce que ce qui ne plaît pas, en fait, c'est la situation de la gare de Chasseradès en elle-même. Je reviens sur la monographie communale de 1899, donc par Jean Barandon, instituteur, qui nous dit, je cite, « Une gare située à 1500 km du bourg de Chasseradès, côté La Bastide, sur le point culminant de la ligne, desservira la commune. Malheureusement, elle ne sera guère fréquentée en hiver à cause de son site et de sa déplorable situation. C'est drôle tout de même qu'une voie ferrée soit inutile au pays qu'elle traverse. On croyait que les ingénieurs étaient les serviteurs du peuple qui les payent. » Fin de citation. Donc, toutes les communes, et notamment Chasseradès, ont voulu absolument donc, cette ligne de chemin de fer, le Translozérien, mais sa réalisation et son application ne correspondent pas finalement aux desiderata des habitants de l'époque.
Oui, surtout que c'est très impressionnant, mais on est en dessous, c'est vraiment oui, c'est impressionnant à voir.
Oui, c'est vrai qu'on a déjà parlé plusieurs fois du Translozérien, mais là, c'est vraiment incontournable. Au pied du viaduc de Mirandol, on se rend vraiment compte de cette épopée, en fait, hein, de la fabrication, et du passage de la ligne de chemin de fer en Lozère. Tu te rappelles que la ligne, elle est construite en deux temps. Le premier tronçon Mende-le-Monastier, il est inauguré le 3 mai 1884, alors que le deuxième tronçon, Mende-la-Bastide, lui, il est inauguré le 15 novembre 1902. Alors, encore une fois, cette ligne, elle est longue de 77 km, elle coupe le département d'est en ouest, et le train circule dans la vallée du Lot, puis il va grimper jusqu'à 1215 mètres d'altitude sur la plaine de Mombelle. Et alors, pour prendre en compte le relief, la déclivité de son parcours et les aléas de la météo, on va être obligé de ponctuer la ligne de chemin de fer avec une succession d'ouvrages d'art. On a 8 ponts qui sont installés sur le Lot. On a 11 tunnels, on a 4 viaducs, 8 galeries par neige et même un bois de 4 hectares qui est planté pour protéger de la neige. Et là, pour enjamber le lit du Chassezac, la voie est portée par le plus bel ouvrage d'art de tout le circuit, le viaduc de Mirandol. Alors quand on dit le viaduc de Mirandol, hein, c'est en fait la succession immédiate de deux viaducs séparés par un éperon rocheux. Le petit viaduc, il est long de 62 mètres et le grand viaduc qui traverse le Chassezac, il est long de 168 mètres et il est au plus haut, hein, il fait 30 mètres de hauteur. Et alors c'est un édifice qui est incurvé et pour le grand viaduc, il est composé de 10 arches. Alors on est ici à 1111 mètres d'altitude précisément. Et donc l'altitude, hein, va vraiment exposer le train aux intempéries, en hiver notamment. Et donc il faut se protéger de la neige. Donc on va construire en fait deux galeries par neige, hein, comme on les appelle. Elles sont construites à chaque extrémité du viaduc pour éviter les congères. Alors il faut savoir que le viaduc et la gare de Chassradès vont être inaugurés en 1902.
Et justement, donc c'est pour ça que la gare est beaucoup trop loin, à 1500 mètres donc, du bourg du village de Chassradès, et que ça sera très critiqué.
Eh bien, merci bien. Quelle est l'actualité ici sur Chassradès ?
Eh bien, l'actualité, en fait, tu sais que la commune de Chassradès a beaucoup de projets. Hein, notamment, elle vient d'inaugurer deux panneaux pour mettre en valeur le viaduc de Mirandol. Il y en a un qui se situe au pied, hein, du viaduc dans le hameau et un autre au-dessus quand on part de l'église. Voilà. Donc, les promeneurs peuvent découvrir l'histoire du viaduc grâce à ces deux panneaux. Ensuite, elle a un projet en fait, pour transférer la mairie dans l'ancienne boulangerie. Et le troisième projet, c'est elle a un gros projet de rénovation du couvent parce qu'elle souhaite le transformer en logement.
Merci Béné. Xavier, on a une anecdote pour Brillant Société ?
Alors oui, Béné a parlé tout à l'heure donc, du viaduc de Mirandol qui en fait est coupé en deux donc, par un éperon rocheux. On sait que sur cet éperon rocheux, il y avait donc, le château de Mirandol qui s'est levé ici. Il était le siège donc, d'une importante seigneurie donc, au Moyen-Âge et à l'époque moderne. Et on peut évoquer, pour Brillant Société, la figure donc, de Marie de Nave, comtesse de Mirandol, qui est née vers 1550, donc la moitié du XVIe siècle, et qui a dominé donc, cette région-là et qui est surnommée la Bonne Dame de Mirandol. Elle est encore très présente dans la mémoire orale donc, des habitants de cette région-là. On n'a pas la date exacte de sa mort, mais on sait qu'elle a fait un testament devant notaire. Le 15 août 1618. À ce moment-là, elle a 68 ans, pour l'époque, c'est pas mal. Et elle nous dit dans son testament « Pour mon corps, je veux qu'il soit enterré dans la chapelle de la maison de Mirandol qui est de nouveau reconstruite à l'église de Chassradès. » Et donc, si on a suivi donc, ses dernières volontés, elle a été enterrée dans l'église actuelle donc, de Chassradès. La légende locale, alors c'est plus qu'une légende, mais il manque donc des faits historiques. Hein. La légende locale et la mémoire orale veut que, après la Première Guerre mondiale, le maire de l'époque a eu l'idée de vouloir honorer donc, les poilus morts au combat en voulant enterrer l'un des soldats morts donc, dans l'église de la paroisse. Il a voulu déceler donc, les pierres au sol et en faire un caveau. La mémoire orale nous dit que les jeunes gens du village qui ont fait ces travaux-là sont tombés sur un cercueil en plutôt bon état. Et l'un des ouvriers, en fait, a mis le pied sur ce cercueil-là, donc malencontreusement. Depuis des siècles et des siècles, ce cercueil s'est ouvert. Et si on en croit un article de la Lozère Nouvelle de 1961, je cite, « On vit parfaitement intact le corps d'une femme avec ses traits, ses cheveux, ses vêtements. C'était le corps de Madame de Nave. Au contact de l'air, tout cela se désagrégea. » Voilà. Alors évidemment, d'un point de vue de la rigueur historique, on repassera. On ne sait pas du tout si c'était elle, on n'a aucun élément historique de ce fait, mais on sent bien qu'à Chassradès, la mémoire orale et les habitants du lieu tiennent à cette anecdote-là.
Bien, merci beaucoup Xavier.
Merci à vous.
Béné, on va aller où le mois prochain pour terminer cette nouvelle saison 2024-2025 ?
Eh bien, on va reprendre la route pour partir en direction de Mende.
Même si le site est quand même en ruine, il est extrêmement bien conservé parce qu'on a tous les éléments qu'on va retrouver systématiquement dans les châteaux à cette époque-là.
Visite radiophonique.
La chapelle, le logis et chaque bâtiment est positionné, non pas forcément sur une volonté de composition architecturale, mais vraiment en fonction de la place qu'on avait.
Visite
radiophonique.
Caroline Entraigue.
Nelly Lafont. Une émission proposée par 48FM avec le Pays d'Art et d'Histoire Mende et Lot en Gévaudan, et le conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement de la Lozère.